Europa Voice numéro 89. Et comme à chaque épisode depuis le début de cette série de podcasts Europa Voice, je suis avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
89 déjà, et on parle, bien, il y a un vieil ami presque qui revient à la table de la négociation, de la discussion, c'est le Covid en Europe. Énormément de questions se posent sur la cinquième vague, ou est-ce que c'est vraiment une vague, ou qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui en Europe avec le Covid? Ça pose énormément de questions, ça secoue quand même pas mal le cocotier. Hein.
Hello darkness, my old friend. Effectivement, Christophe, on a le Covid et la pandémie de Covid-19 qui revient un peu partout dans le monde. Et pour ce qui nous intéresse, nous, au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, c'est qu'il semble que malheureusement, l'Europe soit redevenue l'épicentre de cette pandémie de Covid-19. Et que on a notamment enregistré début novembre, la première semaine de novembre, entre le 1er et le 7, plus de 60%, Christophe, des nouvelles infections de Covid-19 diagnostiquées dans le monde, et environ 55% de tous les décès liés à la pandémie. Et selon une source très officielle, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a déclaré ça et qui donc, met les projecteurs de manière un petit peu tragique sur le continent européen par rapport à ce retour de la pandémie de Covid-19.
Alors, j'allais poser la question brute, hein. Comment c'est possible ? Il y a des chiffres de vaccination qui sont quand même respectables en Europe. Où est-ce que le problème est là ? C'est que même si on atteint du 65-70%, on n'atteint pas le chiffre clé du 80% de la Pareto law ou du 90%. Et ça, peut-être ça prouve qu'il est quand même nécessaire de faire peut-être une campagne comme l'Australie l'a très bien faite. En fait, on a beaucoup critiqué l'Australie sur la stratégie vaccinale, mais globalement, ça s'est passé très vite à partir du moment où on a décidé de se mettre en action pour atteindre des chiffres qui peut-être pourrait protéger la population australienne et ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Australie, en Europe. Est-ce que c'est vraiment là la clé, à votre avis ?
Je dirais, Christophe, on a peut-être un peu le revers de la médaille, finalement, des bénéfices de la vaccination, dans un sens où, comme on a un petit peu peut-être mis dans la tête des gens, mais même en matière de communication publique, communication politique, que la vaccination était la solution pour arrêter cette propagation de Covid-19, on a certainement eu, si vous voulez, deux choses. D'abord, on a eu un relâchement des mesures de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu un sentiment d'immunité presque par rapport au fait qu'on soit vacciné. Donc, c'est-à-dire qu'on est vacciné et donc à côté de ça, on voit bien, il y a des mesures de contrôle qui sont complètement relâchées. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président Macron a remis une couche sur ces mesures de contrôle. Donc ça c'est le premier aspect, c'est le revers de la médaille de la vaccination et des taux importants de vaccination, c'est qu'à côté on a un petit peu relâché tout ce qui était mesures de contrôle. Et le deuxième élément, Christophe, qui va avec ça, c'est que il y a quand même des limites à la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination seule, elle ne suffit pas. À côté de cette vaccination-là, vous devez quand même avoir le respect des gestes barrières, vous devez avoir un tas, j'allais dire, de mesures annexes conjointement à cette couverture vaccinale pour que votre épidémie elle baisse, si vous voulez. Pour juste prendre une comparaison, c'est un peu, si vous voulez, comme avec la grippe. Vous allez quand même faire, il y a des campagnes de vaccination contre la grippe, mais après vous allez quand même faire attention de ne pas sortir en t-shirt en plein hiver. Alors c'est un exemple un petit peu tribal pour comprendre, mais pour le Covid-19, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la vaccination, elle protège. Et ça, tout le monde est d'accord que d'ailleurs les cas graves, la plupart des cas, les rentrées en hôpital sont le fait de personnes qui ne sont pas vaccinées, donc ça protège, c'est effectif, il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, à côté de ça, il faut ces mesures, j'allais dire, secondaires, annexes, pour qu'on n'ait pas une nouvelle vague de l'épidémie comme on est en train de le voir actuellement en Europe, Christophe.
Est-ce que on voit quand on regarde une carte, on sent vraiment que c'est une vague. Si on parle de vague qui vient de l'Est, on sait qu'il y a une crise sanitaire en Russie qui est presque incroyable. Et puis il y a toute une vague qui est donc à l'Est avec des pays comme l'Allemagne, l'Autriche qui sont énormément touchés. D'ailleurs l'Autriche qui a reconfiné ses non-vaccinés. Est-ce que la solution, elle est là aussi pour un pays comme, comme la France, par exemple? Est-ce qu'on se pose la question en France? Alors, je sais que les journalistes posent la question en France, mais est-ce que dans les gouvernements, dans les sphères des dirigeants, on se pose la question de se dire, bah, si vous n'êtes pas vacciné, il faudra peut-être repasser par un reconfinement, certainement dans les mois d'hiver?
Alors, il y a ce qui est dit, Christophe, en politique, comme souvent, et ce qui n'est pas encore dit, ou ce qui est à dire. Ça a été rappelé, je crois, par le porte-parole du gouvernement cette semaine, Gabriel Attal, que à l'heure actuelle, il n'y a pas la question d'un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Mais de manière générale, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais surtout, on a vu, à part ce petit mot d'humour, on a vu qu'avec le Covid, c'était très difficile aussi, non pas d'avoir une position arrêtée, mais d'avoir une position, j'allais dire, qui n'évolue pas, parce que c'est une situation qui est un petit peu inédite, même si maintenant on en est à la cinquième vague, on est 2 ans après le début de l'épidémie, on a encore plein de données, plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, j'allais dire, pour l'instant, officiellement, c'est quelque chose qui n'est pas considéré, mais on ne sait jamais et on n'a pas encore. Il faut savoir aussi que là, on parle de vagues en Europe, hein, d'une Europe dans la tourmente qui redevient ce moteur de la pandémie, mais qu'on verra vraiment le pic de cette vague-là, ça, selon tous les spécialistes, environ aux vacances de fin d'année. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore très peu, j'allais dire, de recul par rapport au pic que va atteindre cette vague et donc aux mesures qui pourraient en découler. Donc, ça, c'est le premier point. Après, Christophe, le deuxième aspect, c'est comme vous l'avez dit, on parle de cette vague européenne, mais cette vague européenne, elle est très protéiforme sur le continent européen. Vous l'avez mentionné, il y a une crise sanitaire en ce moment, des regroupements à l'Est, ce qui n'aide évidemment pas à contenir cette vague. Il y a aussi les conditions météorologiques qui sont plus froides que dans les pays du sud de l'Europe, par exemple. Donc, on a ce qu'on peut rappeler les mauvais élèves de l'Europe, ou en tout cas ceux qui s'en sortent pour l'instant le moins bien, qui sont les pays de l'Est. Après, vous avez un deuxième groupe, que sont les pays plutôt du Sud, Espagne, Italie, Portugal, même France, dans une certaine mesure, où là, on a un taux de vaccination qui a bien évolué. On avait eu des confinements parfois un peu stricts. Et puis, on a aussi ce facteur température qui fait que peut-être jusqu'à présent, ces pays-là ont été un peu plus épargnés que d'autres pays. Après, on a les pays, un troisième groupe, on a les pays d'Europe du Nord, où là, on a une épidémie vraiment qui repart en flèche. Et chose intéressante aussi, c'est que pour ces pays de l'Europe du Nord, on a des cas, j'allais dire, qui vont faire jurisprudence, parce qu'on a certains pays qui vont, par exemple, instaurer des passes vaccinaux pour la première fois. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aussi pas de recul sur l'acceptation par la population de décisions politiques par rapport au Covid. C'est le cas notamment de la Suède, où à partir du 1er décembre, il y aura un pass vaccinal, mais pour la première fois pour les événements de plus de 100 personnes. Et puis on a de manière assez étrange, on a le Royaume-Uni où on a un taux d'infection qui lui plafonne à un niveau élevé mais qui est stable. Très difficile, j'ai essayé de trouver des informations sur cette raison et cette ce particularisme anglo-saxon qui n'est certainement pas lié, malheureusement, je pensais que vous l'espériez, Christophe, au Brexit, mais on a peut-être simplement une population qui a eu moins d'interactions sociales, qui s'est elle-même plus auto-limitée et qui explique qu'on a un taux élevé mais qui est finalement relativement stable. Mais bon, encore une fois,
il y a aussi la nature du vaccin chez les Britanniques, parce qu'ils ont été majoritairement vaccinés avec l'AstraZeneca, alors qu'en fait en Europe c'est plutôt le Pfizer qui a prédominé quand même. Et il y a aussi un changement, c'est un différent vaccin, une différente protection.
C'est non, mais tout à fait. C'est aussi une question de, j'allais dire, de couverture vaccinale et de quel vaccin a été utilisé. Vous avez raison, en Royaume-Uni, c'est l'AstraZeneca qui a été utilisé. De manière différente du reste de l'Europe, où on avait plutôt des paniers de vaccins ou des mix de vaccins, ce qui peut-être aussi expliquerait ça. Mais vous voyez, en tout cas, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que même sur ces questions de vagues, on a quand même des situations qui sont très différentes en Europe. Un pays dont on ne parle pas parce qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est la Suisse, où là, pour le coup, on a un taux de vaccination qui est pas extrêmement élevé et on a une épidémie qui repart en flèche. Et important, c'est qu'on a c'est un pays quand même qui est vraiment imbriqué au cœur de cette Europe, au cœur, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est au cœur de l'Union européenne. Donc, va se reposer quand même un moment, Christophe, cette question aussi des frontières. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, officiellement en France, on ne parle pas de reconfinement, mais la situation va certainement évoluer et les discours et les actes politiques et la traduction en actes politiques de la situation sanitaire va aussi cette traduction certainement évoluer dans les prochaines semaines en fonction de cette vague européenne.
Ouais, et puis il y a aussi un point très important, c'est qu'en France, on a beaucoup parlé d'un pass sanitaire et non pas d'un pass vaccinal. En Australie, on a le pass vaccinal. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse différence, c'est que dans un pass sanitaire, on peut aussi accéder à certains événements avec un test PCR de moins de 3 jours qui est dans la même application et qui vous permet qui permet aux gens non vaccinés de profiter également d'autres choses. Ça, c'est un risque de changer parce que le modèle australien, en fait, risque de prévaloir, de dire c'est un pass vaccinal, vaccin, vous rentrez ou vous rentrez pas. Et il y aura plus du tout de tests PCR pour pouvoir accéder à certains endroits. Et ça risque de changer énormément les choses.
C'est le cas, effectivement, Christophe, je crois, à partir d'aujourd'hui, pour tout ce qui est retail, distribution, ou à part maintenant certaines courses de vraiment première nécessité, sans pass vaccinal, comme vous l'avez dit, il sera impossible pour les personnes non vaccinées en Australie de rentrer. Donc, la question, c'est aussi, encore une fois, c'est l'acceptation de ces mesures-là par la population. L'Australie ou Melbourne est sorti 18 mois de confinement, on avait un confinement assez dur, donc on a été tellement pressurisé que peut-être cette mesure va être plus acceptée maintenant qu'on a dans les mains les clés pour pouvoir revivre une vie normale. Est-ce qu'en France, est-ce que dans des pays plus européens, on arrivera à contraindre autant les gens qui ne sont pas vaccinés sans qu'il y ait des mouvements de masse? C'est encore une autre question, Christophe.
Ouais, absolument. Allez, on va parler d'un sujet qui a quand même été présent depuis quelques épisodes d'Europa Voice, malheureusement. C'est la situation des migrants et surtout du rôle plus prédominant de la Biélorussie dans tout ça. Et aujourd'hui, il y a aussi une question par rapport à l'Ukraine. Donc, c'est une situation qui... Est-ce qu'on peut dire que la situation s'envenime un petit peu quand même à l'est de l'Europe ?
Effectivement, Christophe, on a déjà débattu de cette question biélorusse et d'Europe de l'Est dans nos précédents numéros d'Europa Voice. Pour faire juste suite à ce qu'on disait dans notre dernier numéro, on a du côté européen en tout cas maintenant une feuille de route pour agir ensemble et pour peser davantage en termes de sanctions contre le régime biélorusse de Loukachenko. On en est, Christophe, au cinquième train de sanctions qui va être pris contre la Biélorussie. Peut-être pour nos auditeurs qui ont peut-être raté un précédent numéro d'Europa Voice, c'est ce qui se passe en ce moment est extrêmement grave à la frontière polonaise avec la Biélorussie. C'est qu'on a tout simplement le régime de Loukachenko, le régime de Minsk, qui instrumentalise des milliers de migrants originaires soit de la région, soit de certains pays du Moyen-Orient, en les attirant sur le sol biélorusse pour après, en fait, les masser à la frontière polonaise. Et donc faire pression sur la Pologne, mais évidemment derrière l'Union européenne, pour alléger les sanctions contre la Biélorussie en faisant planer la menace d'une, je mets des guillemets, d'une invasion de migrants dans l'Union européenne. Donc c'est extrêmement grave. L'Europe a réagi pour le coup là assez rapidement, mais là on voit vraiment qu'il y a quand même une... Je ne sais pas si c'est un envenimement, mais en tout cas, une montée en puissance des sanctions et des menaces de l'Europe par rapport au régime de Biélorussie. On le voit de plusieurs façons. La première façon, d'abord, c'est à travers les déclarations des dirigeants. On a quand même beaucoup de hautes personnalités, comme le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, mais encore d'autres ministres des affaires étrangères de pays européens qui vraiment montent au créneau, qui font des déclarations public. Et puis le deuxième aspect, c'est que l'Europe est en train aussi d'élargir, en fait, ses sanctions, j'allais dire, à ceux qui coopèrent avec le régime de Loukachenko, avec le régime de Biélorusse, pour instrumentaliser ces migrants. Donc, effectivement, on a une situation qui s'envenime et on a une Europe qui met de plus en plus la pression, qui commence, d'ailleurs, Christophe, à porter ses fruits parce qu'on a plusieurs pays qui ont rapatrié, donc notamment des pays du Moyen-Orient, qui ont rapatrié leurs ressortissants qui ont été parqués à la frontière polonaise, justement, après les pressions de l'Europe pour les faire revenir, pour qu'il n'y ait plus de migrants syriens, irakiens, turcs, qui soient là, massés, nassés à ces frontières de l'Europe et qui seraient une espèce de monnaie d'échange entre les Biélorusses qui font pression et les Européens qui doivent avoir une réponse humaine et coordonnée.
Est-ce qu'on sait un peu plus clairement depuis l'épisode, le dernier épisode, peut-être le rôle des Russes, de Poutine dans tout ça? Parce qu'on sent bien que bon, les Biélorusses, ils sont au cœur de ce débat, mais c'est quand même un petit peu on sentirait que ce soit un petit peu dirigé quand même par l'État grand frère, l'État russe. Ça s'éclaircit un petit peu de ce côté-là. On y voit un peu plus clair sur le rôle peut-être de la Russie et ce qu'ils veulent faire et jouer avec ces pressions et les points de pression, justement, l'immigration au niveau de l'Europe.
C'est un sempiternel débat, Christophe. Hein. C'est toujours la Russie qui essaye encore d'avoir la main mise sur ces ex-pays du bloc soviétique et d'avoir une espèce de zone tampon pour jouer de son influence avec ces pays-là qui, eux, sont aux portes de l'Europe. Donc, en fait, c'est plus qu'une impression, c'est qu'on sait qu'il y a la mainmise de Poutine derrière Loukachenko, derrière ce qui est en train de se passer en Biélorussie. Mais rappelez-vous, hein, ça faisait aussi les titres de certains de nos précédents numéros d'Europa Voice. On est dans le même, j'allais dire, dans le même jeu que ce qui s'était passé avec l'Ukraine et l'annexion de la Crimée il y a 8 ans de cela maintenant, où ben là c'était clairement aussi la main de Poutine. Et je pense sincèrement, Christophe, que devant ce manque de réponse à l'époque, hein, en 2014, de l'Union européenne sur ce dossier ukrainien, on a finalement donné à Poutine, non pas un peu raison, mais on lui a montré aussi la faiblesse d'une réponse collective, coordonnée et rapide qu'aurait dû avoir l'Union européenne. Et Poutine, lui en faut pas plus pour s'imbriquer dans ces errements de l'Union européenne, et c'est ce qu'il le fait malheureusement avec ce dossier biélorusse, comme il le fait avec le dossier ukrainien et ce qui est en train de se passer, parce qu'on a des choses similaires qui sont en train de se passer à la frontière européenne. Et juste pour ajouter à ce dossier russe, Paris et Londres, enfin toutes les capitales européennes, ont appelé de toute façon Poutine. C'est-à-dire que on n'en est pas au point de savoir si on a la mainmise de Poutine ou pas derrière. On sait que derrière, il y a effectivement l'influence du grand frère russe. Et donc, une manière aussi de faire pression sur Loukachenko, c'est de faire pression sur Poutine, qui lui, après aussi, fera pression sur Loukachenko. Et puis, ce qu'on veut éviter, Christophe, on ne l'a pas encore mentionné, mais il y a quand même des symboles qui sont terribles dans ce débat et dans cet épisode biélorusse. C'est l'annonce par la Pologne, par Varsovie, de la construction d'un mur à la frontière biélorusse qui débuterait, je mets encore le conditionnel parce que j'espère que c'est des choses qu'on ne verra pas, mais qui débuterait en décembre. Donc vous voyez, c'est une espèce de lente escalade instrumentalisée, orchestrée aussi par la Russie, qui va nous mener à des situations européennes qu'on pensait un peu enfouies, ou en tout cas va faire partie de l'histoire.
Absolument, et on se souvient, il y a quelques temps, Orban et la Hongrie avaient décidé de faire la même chose également, de construire un mur entre guillemets les migrants. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui continue, et c'est quelque chose qui on a l'impression que l'Europe a du mal à se dégager de cette histoire et de ce clan russe. C'est, en tout cas, comme on dit à chaque fois, c'est une affaire à suivre, Nathanaël.
Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt.